Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais simplement vous donner une petite information sur ce que nous allons méditer ce matin. Peut-être certains penseront que c'est un message un peu particulier, original, mais il ne fait que finalement approfondir ce que tout le monde sait, ce que vous savez, et tout simplement faire ressortir des faits de notre monde, des choses qui nous sont très connues, mais confrontées et mises en parallèle avec la parole de Dieu, ça nous amène à réfléchir. Alors, il y aura naturellement nombre de passages de la Bible, mais je voudrais les commenter avec des explications de certaines choses qui sont notre quotidien et qui fait que nous avons besoin les uns et les autres en tant que chrétiens d'avoir véritablement un positionnement de fermeté dans la foi. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors j'aimerais que nous fassions une première lecture. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 2. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. » Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez ! Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Voilà pour notre première lecture. La deuxième, nous allons la faire dans le livre de l'Apocalypse. Alors, on se projette dans le livre qui mérite son nom, Révélation, Apocalypse, chapitre 2, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dans la traduction, Tob, vous la connaissez. Le même texte d'Apocalypse nous restitue ceci. Quant à vous, vous ne vous êtes pas attachés à cette mauvaise doctrine ou à cet enseignement pernicieux, pourrait traduire aussi par philosophie. Alors, quant à vous, vous ne vous êtes pas attachés à cette mauvaise doctrine que vous n'avez pas appris. Et dans Paroles vivantes, je chevauche, que vous n'avez pas voulu connaître. Et je reprends, ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan. On savait déjà que l'apôtre Jean déclarait dans son épître que le monde entier gît dans le malin. Nous sommes exhortés à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais là, nous allons aborder quelque chose qui peut véritablement susciter chez nous une saine réactivité pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons et que nous nous préparions finalement non seulement au retour de Jésus, mais à voir et à marcher d'une manière digne du Seigneur dans un monde où le mal, eh bien, s'appesantit de plus en plus sur les hommes. Dans le domaine de la médecine, il y a certains symptômes qui apparaissent anodins à première vue, mais qui, non décelés à temps par les médecins, cachent des pathologies mortelles. Et c'est après coup qu'on s'aperçoit que si on avait été un peu plus vigilant, si on avait poussé les examens, eh bien, finalement, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Hélas, il n'y a plus rien à faire, parce que le mal est beaucoup plus profond qu'on ne le pensait. Le XXe siècle, celui que nous avons quitté il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, a mis à jour des armes de destruction redoutables, ce qu'on appelle la bombe atomique. En plein milieu du siècle, eh bien, au cœur de la dernière guerre mondiale, eh bien, voilà qu'il y a eu l'apparition d'une arme terrifiante dont on n'avait jamais certainement supposé que les hommes seraient capables de faire une telle chose. Cependant, aussi effrayant que puisse être cette diabolique invention qu'est la bombe nucléaire, il existe d'autres bombes super puissantes, mais celles-là, elles ne sont pas atomiques, mais elles sont idéologiques. Vous savez ce que ça veut dire, idéologique ? C'est la pensée, c'est les idées, ce sont les doctrines, ce sont les enseignements. C'est tout ce qui peut être amené à la compréhension ou porté à la compréhension ou finalement l'instruction des hommes et qui finalement, ces bombes idéologiques, irradient l'âme, le cœur, la conscience et l'esprit des hommes. Ça fait moins de bruit qu'une bombe atomique. Il n'y a pas de champignons. Mais toujours est-il que ça rentre et ça pénètre. Et vous savez que quand Paul écrit aux Philippiens, il recommandera que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La semaine dernière, on avait évoqué la dépression. La dépression a différents niveaux, dépression morale, il y a des dépressions physiques aussi, puis il y a des dépressions spirituelles. Mais c'est quelque chose qui se passe dans notre tête. Alors peut-être pourrions-nous expliquer les choses aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, que beaucoup de gens souffrent, mais ils souffrent à cause de leurs pensées et à cause d'un conditionnement qui est dans leur environnement. Bien avant la découverte du nucléaire, aux alentours du XVIIIe siècle, dans notre monde et dans notre Occident, il y a une révolution qui s'est mise en marche. Elle s'est faite d'une manière assez silencieuse, mais enfin bon, en son temps, elle a certainement fait du bruit, et elle continue à faire du bruit. C'était avant la Révolution française. Et depuis, elle n'a jamais cessé de désintégrer le monde en atteignant la pensée des hommes. À l'observation, on peut parler d'explosion en chaîne. Vous savez, comme dans une explosion nucléaire, explosion en chaîne. Et tellement cette arme a été constamment perfectionnée. Et jusqu'à nos jours, eh bien, on continue à perfectionner cette arme de destruction qui atteint, je le rappelle, les cœurs, les consciences, l'âme et l'esprit des hommes. Le diabolique inventeur n'est autre que Satan, qui a inspiré, qui a suscité toutes sortes de mouvements, toutes sortes de circonstances, mais surtout en appuyant les choses avec des hommes qui ont pensé à la question et qui ont écrit. Et c'est bien pour ça que cet inventeur diabolique dont nous venons de donner le nom s'appelle aussi dans la Bible le prince de ce monde. Et il ira même être appelé, on l'appellera même le prince de la puissance de l'air. Il est vaporeux, on ne sait pas où il est tellement, mais il est là. Et il tient là son empire, parce qu'on peut parler d'un empire, d'un royaume, prince de la puissance de l'air. Les pensées et les idées sont immatérielles et invisibles, ça c'est quelque chose que vous savez. Hein, on les concrétise les pensées, on peut les mettre tout simplement et bien là par l'écriture, on peut les exprimer par la parole, on peut les figurer peut-être par la musique, enfin toutes sortes de choses. On pense et puis on l'exprime, on le manifeste, on le met à jour et à la compréhension des autres. Mais la pensée, les idées, eh bien c'est quelque chose au départ dans ce que nous sommes en tant qu'hommes, c'est immatériel. Et nous voyons que cet ennemi s'est ingénié, mais ce n'est pas son premier coup d'essai, parce que ça remonte au livre de la Genèse, mais surtout dans les derniers temps, parce que les derniers temps, c'est la proximité du retour de Jésus. Alors surtout dans ces derniers temps, eh bien, il s'est ingénié à charpenter, si vous me permettez l'expression, tous les systèmes en utilisant des doctrines philosophiques, psychologiques, sociologiques. Il n'a pas oublié les doctrines religieuses que l'on appelle la théologie, les doctrines économiques, politiques, en un mot, ce qui fait tourner le monde. Et il a mis finalement son ivraie un petit peu de tous les côtés. Ça ne veut pas dire que depuis la chute de l'homme, il n'y avait pas déjà de l'ivraie un peu partout. Mais il accélère le mouvement à la fin des temps. Parce que c'est comme ça, hein. Il sait qu'il est vaincu, il sait qu'il a été condamné à la croix, mais néanmoins, s'il est vaincu, s'il est condamné, il n'est pas pour autant inactif. Alors il a instillé dans le monde, et dans le monde, et dans les pouvoirs du monde, et parmi ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont, eh bien là, on pourrait dire aux commandes du monde. Eh bien, c'est ce genre de doctrine. Et puis, à tous les niveaux, hein, il n'a rien oublié. Le monde, c'est le monde. Ça ne veut pas dire, et je le rappelle au passage, parce qu'il faut quand même faire attention, Jésus ne nous a pas demandé de quitter le monde. Hein. Il nous a dit tout simplement, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais que tu leur donnes ta grâce, que tu leur donnes la foi pour qu'ils vivent dans le monde et qu'ils rendent témoignage de moi, parce qu'autrement, il n'y a plus personne. » Et l'Église est en train de maintenir finalement quelque part le Saint-Esprit dont nous sommes dépositaires, maintient encore les choses, jusqu'au moment où nous dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens que finalement les choses seront réglées, mais bien réglées. Alors, inconsciemment du phénomène, le monde a été savamment conditionné à vivre, à penser, à agir, à réagir, selon les critères idéologiques qu'on lui a habilement imposés comme réponse universelle à sa quête de bonheur et d'idéal. Vous suivez pour l'instant, hein ? Vous savez tout ça. Ça, c'est quelque chose que quand on réfléchit, eh bien, on se dit, mais quand on regarde autour de nous, on se dit, mais oui, le monde, il est comme ça. Alors, pour certains, il paraît beau. Pour certains, il a des atours assez séduisants, il a de la brillance, il promet l'avenir, il promet le bonheur, il promet pas mal de choses. Mais il n'y a pas que les chrétiens qui se sont aperçus que le ver est dans le fruit aussi. Hein. Même des gens qui appartiennent pas au Seigneur. Hein. Et pourtant, on se dit, mais regardez comment l'homme est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Mais Dieu n'a pas privé l'homme de l'intelligence qu'il lui avait donnée, et l'homme n'a pas abdiqué cette intelligence, et il n'a pas abdiqué l'intelligence. Maintenant, le problème, c'est que au lieu de faire converger cette intelligence vers le bien, il l'amène, et il y a les sous-produits, finalement, de cette intelligence, les sous-produits de la science, les sous-produits de tout ce que, finalement, eh bien, Dieu aurait voulu. Et ces sous-produits ne sont pas beaux. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont même pas humains, ils sont même pas naturels, ils sont même pas terrestres, ils sont diaboliques. On peut même dire qu'ils apparaissent sous une forme de sagesse. Si vous voulez vous en convaincre, vous lisez Jacques chapitre 2, vous verrez. Sagesse des hommes qui paraissent, eh bien là, intelligents, etc. Et puis, on s'aperçoit que derrière, il dira, Jacques, sagesse, elle est charnelle, elle est humaine. Et voire troisième plan, elle est diabolique. On peut comprendre que quelque part, sans faire abstraction et de sélection, Jésus a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alors on continue. Un philosophe dont vous avez certainement entendu parler, Frédéric Engels, a dit ceci. Je cite. Il a dit « Notre philosophie abolit toute notion de vérité absolue et définitive. » On l'a compris, tout est relatif et on peut donc douter de tout. Voilà. Ah oui. Ça, c'est le vieux péché, c'est le vieux refrain d'Adam. Est-ce que Dieu aura-t-il réellement lit ? Et de là, est-ce que Dieu existe ? Est-ce que ceci, est-ce que cela, et ceci, et cela ? Alors, on peut tout remettre en cause, naturellement. Or, la Bible a depuis fort longtemps mis en garde sa créature, et non pas seulement les croyants et les chrétiens, mais sa créature, contre la subtile proposition. Et si je tourne les pages de ma Bible, je m'en tiens à un homme qui était en quelque sorte un homme intelligent. Il s'appelle l'apôtre Paul, universitaire, donc il avait quand même été probablement entraîné à la réflexion. Et dans le monde grec, le monde romain, eh bien ça ne devait pas être n'importe qui, puisque même s'il ne fait pas l'étalage de son savoir, enfin en tous les cas, il révèle quand même des choses. Et dans 2 Colossiens chapitre 2 et au verset 8, il est dit ceci. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Normalement, la traduction, c'est la philosophie, le mot philosophie, c'est « amour de la vérité hein, » ou « amour de la sagesse ». Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes ou des enseignements des hommes, on peut dire ça comme ça, et sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Bon, il y a un contexte spirituel, mais néanmoins, et quand Paul parle de « prenez garde à la philosophie », il était en plein cœur de l'Empire romain, dans la civilisation grecque. C'était pas n'importe quoi, hein. C'était quand même pas une petite affaire. Mais quand on lit ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose dont nous avons besoin de nous mettre en garde. C'est un vieux Roland de la première parole de mensonge de l'histoire de l'humanité sur la Terre. Et là, ça vaut peut-être quand même le détour. On tourne notre Bible vers le début et on ouvre cela au chapitre 3 et au verset 4 à 6. Je me permets de reprendre ces textes parce qu'il faut les relire. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, alors que Dieu précédemment avait dit, « Si vous mangez de l'arbre du fruit de cet arbre, vous mourrez. « Alors vous ne mourrez point, mais Dieu sait. » Il en sait des choses, le Seigneur. Hein? « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, premièrement, vos yeux s'ouvriront. Deuxièmement, vous serez comme Dieu, ce qui n'est quand même pas une petite affaire. Et troisièmement, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Premièrement, bon à manger. Deuxièmement, agréable à la vue. Troisièmement, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en a pris, elle en a donné à son mari. Puis vous connaissez la suite. Il y avait un pépin, un gros. Eh oui, parce que le diable n'a rien inventé. Hein. Il refait toujours ce qu'il a fait. Mais il a un avantage sur nous, c'est que les hommes meurent. Et les générations ne se souviennent pas du passé et de l'histoire. Ce qui a fait chuter d'autres temps et d'autres générations, nous on s'arrive comme ça sur la terre en disant « Ah mais c'est tout neuf, c'est comme si ça venait de commencer. » Tiens. Je peux vous dire qu'il a une expérience de millénaire sur nous. Et pour nous tromper, oh, il mettra peut-être des formes avec le temps, qui est le nôtre, le modernisme. Mais il ne change rien à son programme. À la lumière de la vérité biblique, on découvre aisément que tous ces penseurs d'intelligence supérieure, c'est moi qui les ai appelés comme ça, intelligence supérieure, du même coup, vous remarquerez que le monde les vénère en quelque sorte, comme les bienfaiteurs de l'humanité, entre guillemets, eh bien tous ces penseurs ont poursuivi le même but. Et ce but est révélé par cette vérité même de Dieu. Ce but, c'est de détourner l'homme créature de la vérité éternelle. De détourner l'homme de son salut. De détourner l'homme et l'induire en erreur sur ses origines. Et on va en parler tout à l'heure. Et de le confondre dans sa destination. Si on ne sait pas d'où on vient et si on ne sait pas où on va, on est un être fini entre une naissance et un trépas. Alors, la vie est belle. Profitons-en, faisons n'importe quoi. Vous allez voir qu'il y a quelque chose derrière tout cela. Et on lui a proposé, enfin le diable lui a proposé par des doctrines, par toutes sortes de choses, par une manipulation de son cerveau, une existence terrestre, mortelle, une existence finie. Alors certains en ont tiré la conclusion, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Puis finalement, puisque de toute façon il n'y a pas de sens, je suis poussière, je retourne à la poussière. Qu'est-ce qu'il y a après ? Rien du tout, puisqu'il n'y a plus rien. Alors on a bâti des empires, on a bâti des philosophies, on a bâti des doctrines, on a fait tout ce qu'on a pu imaginer, qu'il n'y avait que la Terre. Qu'il n'y a que la Terre, c'est tout. Et puis ben, la Terre, elle nous voit naître et puis elle nous reprend à un moment donné. Et puis il n'y a rien d'autre. Et le virus a fait superbement son effet. Parce que tous ces promoteurs et inoculateurs se sont bousculés au portillon, figurez-vous. Génial, j'ai une idée. Alors, on l'a un petit peu potassé, on l'a écrit, on en a fait une doctrine, on en a fait un régime. Hein, pas de banane, mais un régime quand même. Et vous allez voir jusqu'où ça a été. Ça commençait, je vous l'ai dit, aux alentours, mais ça commençait bien avant, parce que les philosophes de l'Antiquité étaient déjà là, ils ont déjà allumé la mèche, en quelque sorte. Mais bon, on était resté quand même sur une conception philosophique qui était assez manichéenne, c'est-à-dire le bien, le mal, et puis ceci et cela. Bien qu'il y ait eu des grandes discussions hein, dans le passé. Hein. Mais toujours est-il qu'on était resté un petit peu là-dessus. Et puis voilà que là, il y a eu une explosion, mais peut-être que ça a été favorisé par toute cette période du Moyen-Âge, de la Renaissance aussi. Où les hommes ont pris conscience. Et puis moi je crois que c'est venu aussi, il faut quand même le dire. L'église dominante de l'époque, l'église toute puissante catholique, hein, s'est enferrée dans des inepties alors complètement aberrantes, comme quoi la terre était plate et puis que c'était le soleil qui tournait autour d'elle. Je peux vous dire que ça fait les... Quand on a commencé à regarder par la lorgnette et qu'on a vu que c'était le contraire, on s'est dit, allez maintenant on arrête de raconter des bêtises et des histoires. Alors est venu justement ces hommes qui sont apparus dans notre monde, et la France a eu quand même sa part. Hein. Au siècle des Lumières, il a été appelé comme ça. Eh bien, ce siècle des Lumières a jeté un voile ténébreux sur le ciel. On s'est dit, bah tiens, peut-être que Dieu n'existe pas, finalement. Et puis on s'est posé des questions sur toutes ces grandes questions, parce que la science était monopolisée par la théologie. Et comme on avait raconté des trucs, mais alors qui ne tenaient même pas debout. À la vérification, je pense à Copernic et puis à tous les autres. Hein. Ils n'avaient pas tort, on était prêts à leur couper la tête. Et ils ont dit, mais non, c'est pas comme... On a dit, taisez-vous, parce qu'autrement, vous allez voir des histoires. Et des histoires, il y en a eu. Hein. Alors, on a vu des gens, des humanistes, hein, parce que c'est bien le siècle des humanistes, on a vu des hommes qui ont pris la défense des autres, de leurs semblables. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot et plus tard sont apparus. Des intellectuels à l'esprit de loin beaucoup plus pernicieux que les premiers que je viens de citer, Engel, Kant, Kierkegaard. Alors vous m'excuserez, c'est quand même une prédication ce matin, hein. Mais vous allez voir où je veux en venir. Je cite ça rapidement et nous allons simplement nous arrêter au plus connu et vous allez voir que ça nous touche en direct. Parce que connaître la Bible, c'est une chose, mais connaître le monde dans lequel nous sommes, c'est encore autre chose. Pour pouvoir savoir et faire là, eh bien, des confrontations et de dire voilà pourquoi je crois et pourquoi je tiens à la doctrine de Jésus-Christ, pourquoi il y a ceci et cela. Parce qu'attention, hein, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut s'enfermer dans une tour d'ivoire. Moi, je dis que l'ignorance est un péché. Et là, on peut appliquer Alors philosophie, le jugement sans appel de la parole de Dieu, et on reprend la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4 et 18, chapitre 4 et 18, on peut dire que toutes ces philosophies dont nous allons parler, celles que nous avons parlé, dont nous allons parler, eh bien Paul les juge de cette manière, et il dira ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, bien qu'ils se disent être des lumières. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance. Et ils ne se piquent pas d'orgueil de tout savoir ou de tout comprendre, en tous les cas de percer tous les mystères de l'univers, à cause de l'ignorance de qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ils en sont arrivés à perdre tout sentiment et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'argent n'est jamais très loin derrière. Voilà le diagnostic de ces philosophies du temps de Paul et ils sont applicables encore aujourd'hui. Ou encore, puisque Dieu, selon eux, est mort, eh bien on va regarder dans Romains, par exemple. Dans Romains, c'est encore Paul, parce que je crois que nous détenons quand même pas mal d'informations avec Paul, à lui tout seul. Et il écrira ceci dans Romains chapitre 1er, verset 22, au verset 21, « Car ayant connu Dieu dans un certain temps, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. » Parce que ça commence toujours là, hein, la tête. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et le verset que je voulais citer, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image, présentant l'homme, etc. etc. » Pour devenir dans, on retourne dans Éphésiens, si vous me le permettez, au chapitre 2 et verset 2, maintenant si vous n'avez pas le temps de tourner les pages, vous pouvez simplement écouter parce que je vais assez vite. Il est dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et au chapitre 5 et au verset 6, « Voilà le résultat finalement de toute cette déviance. » Il est dit ceci, verset 6, « Que personne ne vous séduise par de vains discours. » Aussi intellectuel puisse-t-il être. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, avec cette injonction pour les enfants de Dieu, n'ayez donc aucune part avec eux. Ouais. Fils de la rébellion, vous comprenez, ça commence par un obscurcissement, un endurcissement, par des sentiments dénaturés, etc., etc. Ensuite, au lieu d'adorer Dieu, nous adorons la créature, c'est ce que nous dit Romain, pour en finir, pour nous dire que les hommes sont menés par le prince de la puissance de l'air, et puis pour nous dire, eh bien voilà, l'aboutissement, c'est de faire de cette humanité des fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion, eh bien, il ne reste plus qu'une chose, puisque l'évangile ne peut pas les atteindre, puisqu'ils ne croient pas, et ils sont condamnés par leur incrédulité, eh bien, il n'y a plus que la condamnation pour ceux qui sont rebelles. C'est terrible, hein, cela. Très rapidement, j'aimerais faire un petit commentaire maintenant sur des choses que vous connaissez, parce que nous sommes contemporains de ces choses. Et vous allez voir, quand vous allez penser, à la fois à ce qu'elles sont ces choses, et à ce qu'elles sont devenues, ou à ce qu'elles peuvent devenir, eh bien, vous allez dire que, quand même, la mise en garde contre les philosophies humaines est certainement approprié. Je voudrais parler d'une bombe idéologique au retentissement planétaire, parce que c'est pas quelque chose qui s'est limité à... C'est dans le monde entier. Vous avez tous entendu parler de cet Allemand Karl Marx, naturellement, qui, peut-être ne le savez-vous pas, mais était fils d'un rabbin. Donc il était bien placé pour connaître la Bible. Et qui, à une certaine époque de sa vie, s'est converti au protestantisme. Donc, il est devenu protestant. Il avait l'Ancien Testament au début de sa vie, et ensuite, il a hérité du Nouveau Testament, puisqu'il est devenu protestant. Il avait des idées très altruistes, mais ça n'a pas empêché qu'il a abandonné femme et enfant, et à la porte, dans la rue. Ça, c'est l'histoire de Karl Marx. Son but, c'était d'abolir le christianisme par une doctrine que vous avez entendu parler, et refaire le monde par une société sans classe. créer un état de guerre entre le prolétariat et puis les possédants. D'ailleurs, je crois que la maxime du communisme... Je ne fais pas de politique, je ne me présente pas, hein, au mois de... Je vous le dis tout de suite. Hein. La maxime du communisme, c'était « Tout ce qui est à toi est à moi », alors que la maxime du chrétien, c'est « Tout ce qui est à moi, c'est à toi ». Vous devinerez, vous connaissez, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Alors c'était une idée lumineuse de dire maintenant il n'y a plus de classe, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. C'est nivelé par le bas. L'idée peut être retenue. La source du mal dans la doctrine de Marx était la propriété privée et tous les moyens sont bons ou ont été bons pour l'éradiquer et éliminer les inégalités. Tout le monde pareil. Tous habillés pareil, tous la même voiture, la Trabant qui roule plus maintenant, mais enfin bon, toujours est-il. Et enfin, toutes sortes de choses. Alors le principe de la fin justifie les moyens. Ça, c'est une doctrine. La fin justifie les moyens. Peu importe de la manière dont on s'y prend, pour faire le bien ou pour aider éradiquer le mal, quitte à faire des... couper la tête aux gens, la fin justifie les moyens. Donc, ça a été largement utilisé. Et comment ça a été utilisé ? Par la déportation, par des travaux forcés, par le génocide, par la délation, par le régime de la peur, par l'épuration orchestrée par un pouvoir central qui contrôle tout et qui collectivise tout. C'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, on l'a vu dans des grands empires comme l'URSS, et puis etc., etc. Je dis ça parce que notre XXe siècle a été terriblement imprégné de cet humanisme-là. Hein. C'est pas une petite affaire. Hein. On dit ça, oui, on regarde ça de loin, on l'était ou on l'était pas, mais bon, toujours est-il que c'est quand même une... Mais vous allez voir le but. Le but, il y a un sens derrière. Dans le programme de Karl Marx, il faut anéantir la foi. Enfin, c'était pas dit comme ça, c'était la religion. Remarquez, dans certains moments, il y a peut-être besoin de faire du balayage. Hein. Mais en tous les cas, moi je l'ai traduit, anéantir la foi, parce que dans la finalité, c'est anéantir la foi, parce que suivez bien le raisonnement. Le matérialisme est la seule réalité qui existe dans ce monde. Rien au ciel, tout sur la terre. Et il y a des hommes, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui a donné, par extrapolation, cette doctrine de l'anarchisme, ni Dieu ni diable. Alors avec ça, je peux vous dire que ça fait un drôle de travail. Le communisme est une façon de vivre dirigée pour affranchir l'humanité et l'émanciper de l'obscurantisme, soi-disant obscurantisme, et paradoxalement dans le fond et dans la forme, cette doctrine de Karl Marx va devenir une nouvelle religion. Elle condamne la religion existante, mais elle devient elle-même une nouvelle religion où l'homme, eh bien, finalement, se prend pour Dieu. Et on va même adorer l'État et les dirigeants. On en a eu un petit aperçu, parce qu'il reste, ça c'est maintenant des dinosaures, hein, les partis communistes aujourd'hui. Hein. Hein, mais on en a eu encore un petit exemple de ce chef d'État au Turkménistan. Hein, enfin, vous avez su l'histoire. Hein, bon, enfin, je vous laisse, j'ai pas le temps de faire le commentaire là-dessus, puis ça serait pas intéressant. Mais toujours est-il que c'est l'adoration de l'homme. Alors on veut que les hommes soient égaux, mais alors je peux vous dire que dans la monoclatura, les privilégiés, les apparatchiks, sont au-dessus du panier. Et c'est la déification de l'homme et de millions, croyant à ce bonheur d'un monde recréé par l'homme. Des millions d'hommes se sont inclinés et se sont prosternés devant cela. Alors on n'adore plus le ciel, on ne cherche plus dans le ciel, on cherche sur la terre. Cette belle utopie a laissé un monde sanguinolent. Un bilan globalement positif, ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Alors, donc, un monde sanguinolent, un désastre économique, la liberté confisquée et au fond de l'âme humaine, une mortelle incrédulité, voire la haine de Dieu et de tous ceux qui ne pensent pas et qui ne croient pas qui croient autrement. C'est ça, les résultats. C'est une philosophie. Et on a appelé ça, même en Amérique latine, repris en sous-main par l'Église catholique, finalement, la philosophie, la théologie de la libération. Ce sont des choses que je vous dis, mais ça c'est vérifiable. Hein. Parce que la religion, au lieu de se faire manger par le monstre, est rentré dedans. Ça, ça fait partie de la souplesse de certaines religions. Alors, voulant dénoncer l'absolu, parce que l'absolu, c'est Dieu, eh bien, on a enfanté un monstre, l'absolutiste humain, tout simplement. L'absolutisme humain. Alors, mes frères et mes sœurs, quant au regard de ce petit survol que nous avons fait, quand la parole nous dit « Il y aura de faux prophètes et de faux docteurs », alors la question, moi, c'est pas moi qui vais y répondre, mais je me pose la question, à la réflexion, vrai ou faux prophète, jugé dans les résultats. Parce que quand c'est un vrai prophète, il apporte du bien. Quand c'est un faux prophète, eh bien, il ne peut apporter que le désastre, le désarroi, la mort et l'enfer. Maintenant, nous allons voir rapidement une autre bombe idéologique. Vous avez attaché vos ceintures ? Ouais. Je sais que j'aurais pas le droit de parler comme ça dans un certain contexte, hein, mais je le fais. Une autre bombe idéologique qui a eu des déflagrations terribles dans notre monde, c'est l'évolutionnisme. Ah ! On a dit que l'on descendait du singe. Moi, je vais descendre de l'estrade. Alors, l'évolutionnisme, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? L'évolutionnisme qui s'oppose au « et Dieu créa ». Chapitre 1er, verset 1er du livre de la Genèse, « et Dieu créa ». On appelle ça le créationnisme. Son auteur, Charles Darwin, un Anglais. Si la précédente doctrine, celle que nous avons parlé il y a un instant, avait un caractère politique et brutal, celle-ci s'est infiltrée au cœur de la science, subtile, mais tout autant grossière, parce que qui dit science dit naturellement élévation de la pensée, mais quand on voit dans les résultats, eh bien, on en arrive finalement à constater que l'homme bête, vous voyez ce que je dis entre guillemets, l'homme bête, la bête humaine. Darwin repose sa théorie sur l'évolution des espèces, la sélection naturelle, la survie du plus fort. Et vous remarquerez que dans certaines doctrines comme le nazisme, on avait retenu la leçon de Darwin. Survie du plus fort. Et à allumer un feu qui est loin de s'étendre, puisque le message est enseigné comme vérité à nos enfants, maternelle, collège, lycée et université. Vous pouvez y aller, hein ? Ah oui ? Mon petit bonhomme, tu sais de qui tu descends ? Tiens, on ne nous a pas raconté une petite histoire à la longue veille avec ça ? De l'œuf ou de la poule ? Enfin bon, je... Eh oui ! Et on a imprégné l'esprit de nos enfants, de nos petits-enfants. On leur a montré dans des tableaux, vous savez, sur les petits livres scolaires d'enfance, l'évolution. Alors on commence et... comme ça, plein de poils. Puis après, bon, ben, on se rase, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas rester comme ça, hein. Et ça, c'est pernicieux. La pensée. Alors, on est passé de la forme la plus primitive au stade supérieur. Bactéries d'abord, poissons ensuite, on est sorti de l'aquarium, on est monté dans un arbre, on est devenu singe, et nous voilà. On est quand même pas mal. Eh oui. C'est vrai qu'on est pas mal. Et l'homme finit par s'adorer. Hein. Et tout cela dans un flou que je qualifierais d'hasardeux. Je voudrais quand même dire au passage, moi je suis profondément convaincu que la Bible n'est pas contre la science. Ouais. Je dirais même qu'elle éclaire la science. Enfin, vu de l'autre côté, c'est peut-être pas forcément comme ça que les choses sont comprises. La Bible prétend le contraire, mais on s'aperçoit que le poison de Darwin fait son effet dégradant. Il a tué en raison, puisque nous sommes que des bêtes et des animaux, nous sortons de l'animalité la plus brutale et grotesque, eh bien, il a tué le tout sentiment de l'origine divine chez l'homme. persuadés que nous sommes finalement que des animaux, mais attendez, évolués. Des primates par surcroît, parce qu'on marche. Prédateurs redoutables, parce que on ne se contente pas de manger les bêtes, mais on se mange entre nous. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Avec cette conclusion, tellement vérifiable dans les faits, l'homme peut s'autoriser à agir et à réagir comme l'animal qu'il croit être, puisque je suis un singe. Enfin, n'allez pas me le répéter quand même, parce que vous feriez peur me convaincre. Mais toujours est-il que, puisque je suis un animal, alors à ce moment-là, ben, quelquefois les instincts, ces stimuli de la vie. Mais est-ce qu'on ne voit pas ça tous les jours dans les journaux, les comportements, qui ne sont pas des comportements humains, mais qui sont des comportements bestiaux? Et encore, c'est quelques petits échantillons que l'on a par-ci par-là. Mais quand la folie de l'homme se déchaîne à travers des guerres, alors là, il n'y a plus de limite, hein, parce qu'il n'y a plus de loi. Il n'y a que la loi du plus fort. C'est terrible, hein? Donc, l'homme considérant qu'il descend du singe, eh bien, peut donner libre cours à ses instincts. Alors, il n'a plus besoin d'éthique. Il n'a plus besoin de moralité. Et ainsi, comme l'humanité n'a pas de commencement particulier, c'est-à-dire le commencement particulier, c'est Dieu, et comme elle n'a pas non plus de fin et de destinée, cette pensée pernicieuse pousse beaucoup de gens vers la moralité. Vous comprenez ce que j'ai ? La moralité, être amoral, ne pas avoir de morale, ou alors plus encore, vers l'immoralité, l'incroyance, le désespoir et la désespérance. Finir pour dire, eh bien, cette vie est insupportable. Et combien il y a de gens qui mettent un terme à leur vie parce qu'ils se disent, de toute façon, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je ne rentrerai pas dans la doctrine, mais ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour du côté de chez Jean-Paul Sartre. L'existentialisme. C'est pas triste. Alors, on comprend qu'on est dans un monde qui est malade. Le passé n'existe pas, le présent, vivons-le, puis comme il n'y a pas d'avenir. Je termine bientôt. J'espère que je ne vous ennuie pas. Hein. Parce que ça sort de... C'est pour ça que j'ai voulu prévenir. Ça sort de l'ordinaire. Hein. Une autre bombe à fragmentation de l'âme humaine qui a été appelée la psychologie des profondeurs. Vous avez entendu parler de ça, la psychologie des profondeurs? Alors, parce qu'on va... On descend de plus en plus, là. Un Autrichien du nom de Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse, il était athée, lui, et il a été initiateur de cette science, finalement, du mental. Science du mental. Prétention à soigner le mental, l'âme et la conscience en faisant abstraction que l'origine des désordres intérieurs de l'homme ont une cause unique, c'est le péché. Et quand vous passez là-dessus, bah vous pouvez toujours chercher. Hein. Alors bien sûr, on y a été à coup de découvertes médicamenteuses, de chimie, de pharmacie et toutes sortes de choses, mais la solution, elle n'est pas là. On peut bien faire dormir les gens, on peut bien les assommer, on peut bien leur mettre des camisoles de force, on peut bien construire des hôpitaux psychiatriques, on peut bien faire ceci, cela, etc. etc. Le problème, c'est que quand ce monsieur a bâti sa doctrine, il a dit, voilà, il y a des gens qui sont complètement dérangés à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont fous, ils sont déments, mais il faut trouver une solution dans toute cette affaire. Mais pour trouver la véritable solution, comme c'est l'âme, un mal spirituel, il faut une réponse spirituelle. Et lui, il a mis simplement le pansement dessus en disant, allez-y. Quand on ne reconnaît pas l'existence de Dieu et quand on ne reconnaît pas la nature déchue de l'homme, et avec cette formidable espérance qu'est le salut, l'évangile de Jésus-Christ, qui nous reprend et qui nous refait en quelque sorte une beauté, eh ben à ce moment-là, on passe à côté. Le traitement préconisé, pris à contresens, a eu pour résultat la permissivité de nos sociétés. Ben oui. La permissivité, puisque l'homme, selon la doctrine de Freud, est motivé par le plaisir. Il n'y a que ça qui compte. Ah oui. Et vous savez que nous sommes dans une société de plaisir effréné aujourd'hui, qu'on l'appelle plaisir, loisir, ceci et cela, etc. et tout ce que vous voudrez. Les gens, ils sont dans une frénésie pas possible. Hein. On en oublie les devoirs et les responsabilités pour uniquement le profit et le bénéfice. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Et on n'a pas fini d'en voir. Et Freud a argumenté, excusez-moi, mais il a argumenté particulièrement la notion de plaisir dans le plaisir sensuel. Ce que la société et les convenances répriment, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est dans une société, il faut respecter. Alors on comprend qu'aujourd'hui, et vous allez le comprendre, on comprend qu'aujourd'hui les couples, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? La grande question, hein ? Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Eh oui, automatiquement. Alors on a fait passer le message à travers le monde, libérer l'homme de ses frustrations et de ses inhibitions, et il trouvera le bonheur. Alors on leur a donné finalement la libération. Et puis on s'est aperçu que c'était une catastrophe. La confusion. En passant par les choses qui sont normales pour arriver à des choses contre nature. Et on se dit, mais c'est pas vrai. On pensait que ça allait leur faire du bien. Et on s'aperçoit que ça fait du mal à tout le monde. À commencer par les enfants. Il faut réviser. Pour Freud, l'homme n'a pas de destinée puisque Dieu n'existe pas. Tout est donc permis et on peut tout faire. Et les fruits amers de cette conception, c'est l'affirmation surdimensionnée de notre moi, de notre ego. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est le principe de l'évangile. Et puis Dieu va se charger de nous amener à un épanouissement personnel, naturellement, mais dans le cadre de son esprit, nous revêtant, nous remplissant, mais autrement dans le reste. Et vous savez, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira, et il écrira à son ami Timothée, plus jeune que lui vraisemblablement, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, les hommes seront égoïstes. » Ça commence par là. Égoïstes. L'ego, le moi, un moi surdimensionné. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Regardez les gens qui se battent comme des chiffonniers pour avoir la première place, pour avoir une place de parking, pour avoir la première place pour, dans une file d'attente, et ceci et cela. Et encore, on est à peu près on est dans une société qui tient un peu les choses. Mais c'est incroyable, ça. L'affirmation du moi. Et l'affirmation du moi, eh bien, engendre automatiquement, puisqu'il n'y a plus de limite. Le crime, le meurtre, les violences, les viols. Il n'y a plus de réprimande pour les enfants. Écoutez, vous avez élevé des enfants. Bon, il y a des choses qui peuvent être acceptées et des choses qui ne sont pas acceptées. Hein, un enfant, il a besoin d'être éduqué. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se balader avec le martinet dans la poche. Ce serait plutôt embêtant, d'ailleurs. Hein? Mais c'est pas ça. Mais quand un enfant fait une faute, il faut lui montrer où est la faute. Et lui montrer quelquefois s'il ne peut pas le comprendre avec sa petite intelligence, parce que bon, c'est une question d'âge. Et bien à ce moment-là, quelque part, il faut le martinet manuel sur les fesses. Alors, mais aujourd'hui, mon petit chéri, tu as fait une grosse bêtise, mais tu sais, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, c'est pas beau ce que tu as fait. Voilà, tu peux continuer. Non, mais attendez, hein, on est en dérive là. Excusez-moi. On va avoir une société qui n'a jamais appris à respecter autrui, qui n'a jamais à respecter son père et sa mère. Il y a des choses quand un enfant, et je le répète, c'est grossier, mais quand un enfant casse quelque chose par inadvertance, bon, et que vous lui mettiez, vous le pulvérisez, c'est pas normal, parce que vous aussi, vous pouvez casser un vase ou les choses comme ça. Mais quand un enfant vous ment, quand un enfant vole ou des choses comme ça, alors ça, c'est des fautes sur lesquelles il ne faut pas passer. Parce qu'il n'apprendra jamais à être vrai. Alors à ce moment-là, il faut lui montrer, c'est tout simplement. Et puis lui dire, le mensonge, c'est pas beau. Certaines choses, c'est pas beau. Et il faut lui montrer, il faut lui apprendre. Mais qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand un enfant ou un adolescent injurie ses parents. Vous croyez que c'est normal, ça ? Et quand on voit les parents qui racontent des grossièretés pour faire rire leurs enfants devant les autres, ben moi, ça m'horripile. Parce que si vous voulez que votre enfant il parle bien, pas seulement le français, mais avec des mots choisis, eh ben, il ne faut pas rire avec des grossièretés de langage, avec des vulgarités, devant un enfant. Quelquefois, on a des parents qui sont en extase devant leur petite étoile, en disant, mais c'est formidable, et puis ils sont en train de le provoquer avec des grossièretés. pour faire rire l'assistance. Excusez-moi, hein, il manque quelque chose. Je suis terrible, hein. N'est-ce pas parmi ces prophètes-là qu'anciennement la parole de Dieu a dit, cette parole que je voudrais vous citer, dans Jérémie, écoutez, il est dit ceci, Jérémie 17, verset 5, je lis, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés dans le désert, une terre salée et sans habitants. » Mes amis, notre société est une société malade. Et pourquoi ? Et pour cause, c'est qu'on a mis notre espérance dans des hommes, dans des doctrines d'hommes, dans des philosophies d'hommes, dans des éducations, dans un système humain. Alors aujourd'hui, on va pleurer. Et on pleure dans notre société. Et on n'a pas fini de pleurer. Et puis dans Jérémie aussi, chapitre 23, il y a encore autre chose. Versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, parce que toute cette doctrine avant-gardiste d'éducation, de philosophie et tout ça, méprise Dieu. Hein. À ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ben, faut voir dans les résultats aussi. Hein. Cette vaste manipulation de cerveau a engendré les pires régimes despotiques qui soient. Au pouvoir de destruction massif, comme le XXe siècle en a connu. Au regard des extrêmes totalitaires, permettez-moi de dire que ce n'est pas une invention de l'esprit des hommes, hein, c'est bien la réalité. Hein. Le XXe siècle a été certainement de par toute l'histoire, par le fait de la population aussi, qui a augmenté, mais le siècle le plus sanglant de que le monde n'a jamais connu, l'humanité n'a jamais connu sur cette terre. Je reviens simplement pour faire la comparaison. Le marxisme, léninisme, d'anticommunisme primaire hein, que je suis en train de faire. Le marxisme, léninisme, pour qui la foi c'est l'opium du peuple, vous savez, et son opposé radical, le fascisme, et on en entend parler aujourd'hui hein, du fascisme, hein, incarné par un homme démon qui s'appelle Hitler, qui promettait le millénium à sa race, parce que c'était ça le national-socialisme allemand, c'était la promesse d'un millénium. Moi je crois qu'Hitler quand il était chrétien, il était d'origine chrétienne. Hein. Il savait les choses. Hein. Et il avait pensé qu'il était l'homme de la situation. Je suppose qu'il y a beaucoup de chrétiens, des chrétiens authentiques, qui ont vécu cette période, ils se sont dit, c'est lui l'antéchrist. Non, il n'était que seulement celui qui vient avant. Ou quelque chose comme ça. Alors, on avait promis. Et là, ça a été véritablement le déferlement, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de nos sociétés. Le racisme, la xénophobie. Mais c'est né de quoi ? Voilà. Toute cette ségrégation, tous les autres au four et au charnier. Il y avait quand même une manifestation d'une charité expéditive, hein, quand même, dans ces doctrines. Je termine. Faux prophètes des temps modernes, précurseurs de l'Antéchrist, sans omettre les philosophies, parce que ça, peut-être, vous allez dire, Alain, t'as oublié quelque chose. Eh bien non, je ne l'ai pas oublié, parce que c'est le contexte de notre monde aujourd'hui. Les philosophies du profit, où trône en maître absolu le dieu Mammon. Alors on pourra l'appeler capitalisme si vous voulez, hein. Mais il est bien là, et Jésus nous a prévenus. Hein. Et tous les ismes antichrétiens. Je termine par cette simple et brève conclusion. Un seul vrai, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, pour moi, Jésus. Sa doctrine, c'est la doctrine de Dieu. C'est la vérité, c'est la lumière, c'est le salut, c'est la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le bonheur des hommes, le bonheur présent et le bonheur à venir. Un seul vrai Jésus. Et quand Jésus a parlé, il ne va pas faire comme nos hommes politiques, parce qu'on va en entendre en long et en travers, Il ne m'a pas dit « Votez pour moi !» Il a dit « Venez à moi !» Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous donnerai le salut. Et il ajoute « Venez à moi et recevez mes instructions. » Il aurait pu dire, on pourrait traduire si on était audacieux pour le faire, « Recevez ma philosophie, recevez ma doctrine, recevez mes instructions. » C'est bien la grande différence. Alors, deux citations pour conclure, parce que je ne voudrais pas conclure sur des choses de néant. Mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, 2 Corinthiens, chapitre, je me suis trompé, 2 Corinthiens 10, verset 5, il est dit ceci. Écoutez, hein, ce n'est pas une prétention du christianisme, c'est quand même une réalité. Il dit ceci, « Nous renversons les raisonnements et les hauteurs. » Ça tombe bien à point là, hein, puisqu'on parle de philosophie. « Nous renversons, Paul dit, avec la doctrine qui est en Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Là où le Seigneur n'est pas, là où le Seigneur est absent, là où il a été évacué, éliminé, eh bien là on peut dire justement que c'est une fausse doctrine. Alors, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité, ça, c'est le message que nous avons à faire passer. Vous savez, quand Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile », on ne doit pas avoir honte de l'Évangile. Hein. Il est infiniment supérieur et la sagesse manifestée dans les paroles de Christ, infiniment supérieure à tout le reste. Et on nous a présenté comme le nec plus ultra du bonheur de l'idéal humain. Alors, si ça peut vous rassurer, une dernière citation dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, quand il est dit ceci, que je retrouve le passage simplement. Vous, petits enfants, vaut mieux être petit dans ce monde de grands et dans ce monde de brutes. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Moi, tu me rassures, Seigneur. Tu me confortes que quand je t'ai répondu à ton appel, je ne me suis pas trompé en te suivant et en te donnant ma vie. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vous savez, ce sont des choses sérieuses, hein, même si j'y mets un peu d'humour, hein, ça c'est dans mon tempérament, quelquefois de piquer un peu, mais une chose qui est certaine, c'est que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et puis ça fait partie de l'histoire. Et un chrétien, comme je le disais tout à l'heure, peut pas dire « moi je fais abstraction de l'histoire, c'est comme ça ». Non, non, non. Vous savez, ce que l'on est, c'est qu'il y en a eu d'autres avant. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais, hein. Mais alors, en tous les cas, il y en a eu un qui était bon. Par-dessus tout, c'était Jésus et c'est lui que nous voulons suivre et que nous voulons adorer, comme nous l'avons chanté juste avant d'ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le monde est malade, de la tête aux pieds. Et, Seigneur, le malade ne veut pas se faire soigner. Le malade récuse le diagnostic du divin médecin. Mais nous voyons, Seigneur, que par les faits, eh bien, Seigneur, la maladie augmente de plus en plus. Une maladie en mourir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as mis dans le monde. Tu ne nous as pas demandé d'être ôtés du monde, au contraire, puisque nous sommes le terre et nous sommes le sel et que nous sommes la lumière aussi, quelque part. Alors, nous voulons tout simplement, eh bien, par la présence de l'Église et puis par la doctrine de Jésus-Christ, par l'Évangile prêché, par le message qui est proclamé sous les cieux, Seigneur, et sur toute la terre, eh bien, nous voulons te demander, Père éternel, que les idées de Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus, les instructions de Jésus, eh bien, puissent véritablement guérir les cœurs, puisse panser, Seigneur, les blessures et donner une réelle espérance, Seigneur, à ce monde qui est là moribond. Oui, Seigneur, nous savons que le diable est le prince de la mort et il veut faire mourir les hommes. Et Jésus est le prince de la vie et il veut nous faire vivre dans ce temps présent et pour l'éternité. visite mes frères et mes sœurs. Et donne-nous ta grâce, Seigneur, afin que nous puissions maintenant juger des choses en fonction, Seigneur, de ce que nous savons. Alors il y a des choses qui sont enseignées dans ta parole, et puis il y a le grand livre de l'histoire qui nous enseigne tous les jours, eh bien, les pratiques des hommes. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, révèle-toi et manifeste-toi. En tous les cas, notre choix a été fait. Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, et je veux que jusqu'à la fin, tu sois le Seigneur de ma vie. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.